m'a été demandé de présenter Claude Nicolet pour cette première des rencontres avec de l'année 2004-2005. C'est une présentation que j'avais d'abord pensé inutile, voire déplacée pour une partie de l'auditoire qui le connaît aussi bien ou mieux que moi, mais finalement peut-être pas pour tous, et je vous rassure tout de suite, je la ferai très courte, alors même que, en y réfléchissant, on pourrait y consacrer une conférence entière. Claude Nicolet est devenu, en effet, un historien objet d'histoire par l'ampleur d'un parcours universitaire et intellectuel dont le caractère classique n'empêche pas l'originalité. C'est modestement et rapidement ce que je voudrais essayer de montrer. Son parcours universitaire le conduit des classes préparatoires du lycée Thiers de Marseille, sa ville, à laquelle il reste profondément attaché, à l'Institut de France, parmi les immortels de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au nombre desquels il figure depuis 1987. Cet itinéraire passe par l'École normale supérieure, par l'École française de Rome, d'abord comme membre à la fin des années 50, puis comme directeur entre 1992 et 1995, mais aussi par un enseignement dispensé tour à tour dans les universités de Tunis, puis de Caen, enfin de Paris 1 et à la 4e section de l'École pratique des hautes études. Je suis bien placée, mais je ne suis sans doute pas la seule ici, pour témoigner de l'enthousiasme qu'a pu susciter cet enseignement parmi les diverses générations d'étudiants, faisant naître ainsi des vocations d'historiens de Rome. De la Rome antique, car c'est bien là une première originalité, puisque nous sommes réunis autour d'un livre qui ne traite pas que de la Rome antique, la première originalité, c'est que l'enseignement et l'œuvre de Claude Nicolet sont d'abord tournés vers l'histoire de Rome antique, à l'époque républicaine et dans les premiers siècles de l'Empire. Beaucoup d'ouvrages marquants jalonnent ce parcours intellectuel, livres et études qui sont toujours des références incontournables et des points de départ pour la réflexion des antiquisants aujourd'hui. Il n'est évidemment pas question de les citer tous ici. Au-delà de sa thèse sur l'ordre équestre à l'époque républicaine, parue en 1974 et qui demeure un de nos classiques pour nos études, j'évoquerai de manière totalement arbitraire mes préférés. J'en ai sélectionné trois, j'en ai pu en sélectionner plus. Depuis le modeste petit volume dans la collection Archives sur les Gracques en 1967, jusqu'au très novateur Inventaire du Monde en 1988, paru en 1988, qui est un de mes préférés, je dois dire, mais sans oublier celui par lequel moi j'ai commencé à entrer dans l'œuvre d'historien de Rome de Claude Nicolet, c'est Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, paru en 1976. Je pourrais, encore une fois, en citer beaucoup d'autres. Je crois que plus intéressant est de faire la part aussi, une part importante, aux entreprises collectives qu'il a suscitées en sachant s'entourer de collègues et d'élèves et en créant ainsi une véritable école au sein de l'histoire romaine. Alors, je ne les rappellerai pas toutes non plus, mais peut-être deux parmi les plus récentes. D'une part, le programme intitulé « La mémoire perdue », parce qu'il me semble que cette enquête a bouleversé l'approche que l'historien peut avoir des sources antiques en le lançant à la recherche des traces en négatif d'autres sources perdues de type archivistique qu'induisent les sources existantes. Elle a aussi permis de renouveler considérablement les questions que nous nous posons autour de l'administration des sociétés antiques et du fonctionnement administratif des sociétés antiques. L'autre entreprise collective à laquelle, évidemment, on se doit de faire allusion en ces lieux et de faire une place importante en ces lieux, parce qu'elle a été menée en étroite collaboration avec la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et avec Robert Hubert, ici présent tout là-haut, c'est bien sûr le programme de recherche sur les mégapoles méditerranéennes, autrement dit les très grandes villes, ressenties comme exceptionnelles par les contemporains eux-mêmes. Programme mené sur la longue durée de l'Antiquité à la fin de l'Ancien Régime. Cette enquête est, me semble-t-il, un bon exemple dans son ampleur chronologique de l'ampleur des centres d'intérêt de Claude Nicolet qui ne s'arrête pas au monde antique, et cela nous amène peu à peu au sujet de la rencontre de ce soir. Dès le début, ses recherches sur le monde romain ne peuvent en réalité pas être séparées de son intérêt pour le fonctionnement du système politique français actuel et pour les origines de celui-ci, les origines de l'idée républicaine en France, pour reprendre le titre d'un livre qui n'est plus d'histoire ancienne cette fois-ci et d'un livre qu'il a publié sur ce thème en 1982. l'historien Claude Nicolet ne peut pas être séparé du citoyen Claude Nicolet et de ses engagements politiques. Son engagement majeur est aux côtés des radicaux et de Pierre Mendès France dans les années 50, quand il participe au début des Cahiers de la République. Plus récemment, à la fin des années 80 et au début des années 90, il a fait partie des conseillers de Jean-Pierre Chevènement lorsque ce dernier fut ministre de la Défense puis de l'Éducation nationale, et il a mené à ce titre une réflexion sur l'enseignement de l'éducation civique en France. Cet engagement politique l'amène aussi très normalement à s'interroger sur l'un des principaux bouleversements de notre vie actuelle. Je veux parler de l'engagement de notre pays dans la construction européenne. Ce questionnement est en partie à l'origine, vous l'aurez compris si vous avez regardé le livre auparavant, de ce livre pour lequel il est parmi nous ce soir, de La fabrique d'une nation, la France entre Rome et les Germains. S'il est vrai que l'édification de l'Union européenne s'est d'abord articulée sur un axe franco-allemand qui est encore aujourd'hui un de ses éléments essentiels, d'ailleurs parfois un de ses éléments discordants par rapport aux autres nations européennes, on entrevoit, me semble-t-il, une des clés de lecture du livre, bien sûr ce n'est pas la seule, loin de là. S'interrogeant sur la place de la référence à la Rome antique dans la construction de l'identité française, mais aussi allemande, Claude Nicolet noue une fois de plus les fils de ses intérêts croisés pour la période antique, comme pour la période contemporaine, et les racines de celle-ci. C'est ce qui fait le caractère original et précieux d'une démarche qu'il est finalement le seul à pouvoir entreprendre, non seulement parce qu'elle demande une érudition peu commune, mais aussi parce qu'elle est le reflet de son itinéraire personnel d'engagement en politique. Là s'arrête le rôle de présentatrice de l'invité du jour qui m'était imparti. C'est à l'auteur lui-même de nous parler de son livre et ensuite à l'auditoire que vous êtes de lui poser les questions que vous désirez lui poser. Je vous laisse la parole.
Chère Catherine, merci. Ça fait toujours plaisir d'entendre ses élèves ne pas dire trop de mal de ce qu'on a essayé de leur donner. Alors naturellement, je suis très ému d'être à Aix, parce que Aix, c'est ma patrie, un peu comme Marseille. Et j'ai passé, dans des temps très anciens, des examens. C'était pittoresque et beaucoup moins intimidant que l'admirable université dont vous disposez à l'heure actuelle. Alors, je ne répondrai pas à tout ce qu'a dit. C'est excessif tout ce qu'a dit Catherine. Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que je m'en veux de parler, d'avoir écrit un livre sur ce thème, mais je ne pouvais pas ne pas l'écrire parce que j'avais réuni des choses, il fallait que ça sorte. Vous savez, pour parler de politique, il faudrait avoir été ministre. Je veux dire, pour savoir vraiment ce qui se passe, et encore le savent-ils tous, ils ne s'en occupent pas de ce qui passe vraiment, mais enfin, ils ont quelque chance. Et moi, je n'ai rien fait de ça. Je n'ai fait qu'approcher, effleurer des choses, et est-ce qu'on a le droit d'en parler? Alors, désespérant de parler de la France, qui est pourtant en réalité le seul sujet qui mérite qu'on parle de lui, peut-être, et en tout cas moi qui m'a toujours sollicité, alors on fait des détours et on parle de l'histoire de la France, telle qu'elle apparaît dans des livres, dans les livres d'histoire, parce que nous sommes entrés à 5 ans dans l'enseignement. On nous a, avant même on en avait vu peut-être, on nous a mis dans des livres, il y en a qui ont trouvé ça agréable et qui n'en sont jamais sortis. Et c'est un peu mon cas. Ce qui fait que j'ai un peu honte du titre qu'on a donné, « Les origines de la nation française ». À quel titre pourrais-je parler de ça? Sincèrement, je ne vois pas et je ne m'en sens pas capable, sauf à un titre. J'ai lu des livres d'histoire, et j'ai essayé d'en lire le plus possible, j'ai essayé de comprendre. Donc, ceci pour vous avertir que je ne suis pas Colette Beaune et que je ne vais pas vous donner un avis, motivé ou pas, sur réellement, historiquement, les origines de la nation française. Je ne sais pas très bien ce que c'est que la nation française, en tout cas ça mérite d'être discuté, et ses origines encore moins. je sais encore moins ce que c'est. Mais je vais d'abord vous parler, je dis bien d'abord, vous parler de la façon dont certains Français, alors j'ai choisi là parce que ça aurait été beaucoup trop vaste, donc des historiens, les historiens professionnels, pour le dire rapidement, depuis le XVIe siècle, rapidement, mais surtout le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe et le XXe, les historiens professionnels ont traité, ont eux-mêmes donné leur avis bien plus motivé que le mien, parce que eux entraient directement dans le sujet, tout en étant capables d'en faire l'historiographie, mieux que moi, Augustin Thierry par exemple, comment ils ont présenté ce problème des origines de la nation française, qu'ils ont inventé, peut-être, ou tel qu'ils l'identifiaient. Alors, pourquoi m'être occupé de ça ? La France nous intéresse tous, c'est notre... c'est le seul vrai problème. En tout cas, moi, depuis juin 40, c'est au fond mon seul vrai problème, la France. Mais j'ose pas le dire, parce que je n'ai aucun titre pour en parler. Mais... je suis un papyrophage, je suis un lecteur de livres d'histoire, et j'ai essayé, j'ai fait que ça toute ma vie. Et en effet, là, en faisant une histoire professionnelle pour mes élèves, pour mes étudiants, c'était l'histoire romaine. Pourquoi ? Parce que ça m'intéressait aussi, pour d'autres raisons, c'est autre chose. Je me suis aperçu que, tout compte fait, je ne parlais que de la France, où je ne lisais que de la France. Catherine a évoqué l'Allemagne. On passe de Rome à la France, ou de la France à Rome. Professeur d'histoire romaine, j'étais que ça toute ma vie, et j'ai essayé de l'être complètement. Mais on rencontre qui ? On rencontre quoi ? On rencontre d'abord des Allemands. On rencontre Mommsen. Pour des raisons épistémologiques, pour des raisons pratiques du métier, parce que c'est incontournable. Et puis on se rend compte que c'est pas un hasard, parce que Mommsen, écrivant d'histoire romaine, écrivait aussi d'histoire contemporaine, la sienne, celle de l'Allemagne, mais celle de la France aussi. Donc on va peu à peu, en tout cas moi, j'ai assisté à une espèce de mise en place d'une comédie ou d'une tragédie, d'une pièce à plusieurs personnages qui, peu à peu, se trouvent des rôles, se trouvent des figures, découvrent les figures de l'autre, soit dans le temps, espacé dans le temps, cette Rome qui font profession d'enseigner, de chercher et d'enseigner, soit les collègues et rivaux allemands qui font la même chose et qui, faisant la même chose, parlent aussi de la France comme nous, nous parlons de l'Allemagne quand nous parlons de Rome. En tout cas, très souvent. Et donc se met en place cette espèce de jeu. C'est pas un jeu, parce que les enjeux sont absolument dramatiques, le plus souvent, pendant les trois derniers siècles, se met en place mais enfin, on est obligé d'appeler ça un jeu aussi, parce que c'est une série de miroirs qui se répondent, qui se renvoient des images, et d'où se dégage peut-être non pas la réalité de la fabrique ou de la naissance de la nation française, moi je suis incapable d'en parler, je crois que beaucoup de gens en fait sont incapables d'en parler, mais la façon dont cette chose-là peut être imaginaire, les origines de la nation française, c'est peut-être imaginaire, a été vue, a été recherchée, a été décryptée, ou a été imposé. Alors, dans quoi ? On aurait pu faire un livre totalement général sur la question. Moi, la question générale me passionne depuis 20 ans, mais il y avait de quoi écrire 10 volumes de cette taille. Il fallait donc, au départ, choisir. J'ai choisi le plus simple pour moi, les historiens professionnels, les historiens de métier selon les époques. Ça se définit de manière un peu différente, mais en gros, c'est le niveau supérieur des textes d'histoire de la France, d'histoire de Rome, d'histoire de l'Allemagne, tel qu'il est élaboré alors dans les milieux humanistiques, pour commencer au XVIe siècle, dans les milieux académiques à partir du XVIIe siècle, parce qu'en France, il y a une académie spécialement faite, recrutée pour ça, à partir du début du XVIIIe siècle, la réforme de l'Académie des inscriptions de 1716, et puis les milieux universitaires, lorsque se mettent en place en France, en Europe, des systèmes universitaires. Et alors on voit comment on va passer des problèmes de conception, c'est-à-dire ce que des gens pensent et écrivent sur ces questions de l'origine d'une nation, de plusieurs nations, par rapport à des événements historiques dont je vais parler, et puis après des problèmes de réception, c'est-à-dire de diffusion de ces, comment dire, de ces artefacts, car de toute manière c'est des choses qui n'ont pas de réalité, ni démographique, ni historique, etc. Ce sont des vues de l'esprit, dans le meilleur sens du terme. Visions sur l'histoire de la France ou de Rome ou de l'Allemagne, mais comment c'est intégré, ça se diffuse à travers des institutions, d'abord dans la couche supérieure, des institutions savantes, de plus en plus chargées par la collectivité nationale, des gouvernements successifs selon les époques, chargées d'élaborer, librement ou pas librement selon les époques, cette vision. Et puis ça se diffuse parce que ça fait partie d'un système d'enseignement beaucoup plus large au fur et à mesure que se créent des universités, puis se crée un système d'enseignement destiné à tout le monde, destiné à tous les enfants, à tous les citoyens. Ce sujet que j'avais restreint au départ au monde de la recherche historique, vous voyez comme il s'élargit, et il s'élargit de manière dangereuse pour celui qui veut le traiter, parce que très vite on découvre les limites de sa compétence quand on veut traiter un sujet comme celui-là. Alors on est obligé à des choix, à restreindre encore son champ d'enquête, sinon ça part dans tous les sens, et alors on n'est pas sûr du tout de faire des choses utiles, c'est-à-dire, si possible, inédite et originale, et il faut choisir systématiquement. Ce livre est le résultat d'une série de choix, mais de choix dont j'essaie de vous montrer le caractère, pour moi, inéluctable, pour l'auteur inéluctable, à partir du point de départ, à partir des prémices. Alors je vous dis, on ne parlera pas des origines de la nation française, parce que je m'en sens incapable, c'est pas mon métier, et puis peut-être est-ce un faux problème. Après tout, c'est peut-être un faux problème. Mais comment ces origines ont été vues, et peut-être simplement en conclusion, si j'ai le temps d'y arriver, il faudra me restreindre, peut-être alors déboucher sur un essai pour répondre alors factuellement à la question, s'il y a une nation française, quelles sont ses origines et où va-t-elle, où en est-elle, où est-elle allée, où en sommes-nous? Mais en conclusion, alors enquête historiographique, donc pour le dire clairement d'un mot, mais enquête historiographique qui, c'est la première surprise que j'ai eue en la menant, d'abord est loin d'être neuve, et pratiquement dès l'origine, je dis dès l'époque humanistique, avec Jean Bodin par exemple, à la fin du XVIe siècle, où cette question est abordée dans divers ouvrages par Bodin comme une question de fait, on s'aperçoit que le point de vue historiographique, c'est-à-dire le jugement sur les auteurs, les savants ou les moins savants, qui ont traité de la question, fait partie intégrale de la question elle-même. C'est-à-dire qu'au fond, la naissance de la nation française, ce sont ceux qui l'ont cherché, qui l'ont trouvé ou qui l'ont inventé. Et c'est un peu le chemin que j'ai suivi, et je ne vais pas naturellement refaire mon livre ou vous débiter son contenu. Je veux insister sur trois ou quatre idées fortes, si vous voulez, sur trois ou quatre faits qui, à la relecture, d'ailleurs, pas forcément au moment où je l'écrivais, mais qui me frappent de plus en plus à l'heure actuelle. Un petit mot d'avertissement. La fabrique de la nation française, ça n'est pas la naissance et la fabrication de la nation française. J'ai pris ce titre, c'est un peu un piège, mais j'ai pris soin de donner les raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Les gens du 19e siècle, vous savez, c'est dans Augustin Thierry, Edgar Quinet qu'on trouve cette allusion à la fabrique des nations. Ça désignait en réalité l'expansion démographique des peuples du Nord. Des peuples du Nord. C'est une phrase de Jordanes, donc un écrivain du 6e siècle, qui abrège des écrivains antérieurs, sur l'histoire des Goths, et où il explique que la Scandinavie, l'île de... On croyait que c'était une île à l'époque, l'île de Scandinavie, Scandia, était comme Officina Gentium, comme, alors Officina c'est l'atelier, la fabrique, d'où sortent des gentes, des peuples, des nations, mot très difficile à traduire. Et puis il a une espèce de remords, et il dit haute Kerté, ou du moins, il sortait de là, les Goths de la Scandinavie, haute Kerté, ex vagina nationum, alors c'est le vagin. Le vagin des nations. Mais naturellement, comme le latin dans ses mots brave l'honnêteté, mais que nos érudits plus tardifs ne voulaient pas le faire, alors ils ne disent pas le vagin des nations, ils disent la fabrique des nations. Mais la fabrique des nations, c'est l'avalanche des peuples du Nord, c'est l'avalanche démographique. C'est donc cette impression que les invasions barbares, vraies ou fausses, que les invasions barbares avaient donnée à certains habitants de la Méditerranée, comme Jordanes, etc., d'une avalanche de peuples. L'expression, qui est très ancienne donc, qui était employée après Jordanes par les divers historiens, elle retrouve une actualité tout à fait nouvelle et incroyable à partir de 1814 chez Edgar Quinet, par exemple, qui dit « Et moi, je l'ai vu, la fabrique des nations ». Ça veut dire « J'ai vu défiler au moment de l'invasion en 1814, quand les armées impériales de l'Autriche et prussiennes ont, sont entrées en France ». C'était une avalanche irrésistible et j'ai vu la fabrique des nations déferler sur la France. Et après quoi? Après Quinet, il y aura Augustin Thierry, il y aura tous les écrivains romantiques qui ont repris cette expression. Donc la fabrique des nations, c'est le danger germanique. C'est, encore une fois, l'avalanche des peuples du Nord. Mais ça peut se prendre aussi, évidemment, au sens métaphorique, fabrique de la nation française. Et vous voyez tout de suite qu'un des thèmes essentiels de cette histoire de l'histoire que j'ai faite, en la découvrant un peu, à la suite de mes prédécesseurs, si j'ose dire, des gens comme Augustin Thierry ou Guizot, dont je ne suis pas à la cheville desquels je n'arrive pas, un thème essentiel, c'est que nous partons d'un problème, d'où vient la France, d'où viennent les Français. Et que tout de suite, on aurait pu s'en douter, on rencontre l'Allemagne, on rencontre les peuples du Nord, on rencontre avalanche ou pas avalanche des peuples du Nord. Alors on rencontre l'Allemagne, on aurait pu s'en douter parce que, après tout, la France, Frankreich, en Allemagne d'ailleurs, après tout, ça veut dire le pays des Francs, et les Francs, c'est un peuple germanique. Du moins depuis le XVIIIe siècle. Parce qu'avant le XVIIIe siècle, les Français étaient allés inventer autre chose pour l'origine des Francs. Ça les gênait déjà de porter le nom d'un peuple germanique. Alors ils sont allés inventer l'origine troyenne des Francs. Est-ce que c'est une invention récente? Certains l'ont dit, de l'époque carolingienne. Non, à mon avis, ça remonte plus haut. Ça remonte, on peut le démontrer en analysant des textes précis, dès le 7e siècle après Jésus-Christ. On trouve la trace de la légende troyenne, mais il n'y a pas à s'en étonner, parce que nous savons, par des textes antiques, que chez les Goths, précisément, parlons-en, chez les, je ne me rappelle plus lesquels, si c'est les Visigoths ou les Ostrogoths, mais enfin tout ça, je l'ai dit dans mon livre, des traces de cette interprétation qui voulait rattacher les Francs, alors de manière très précise, les Francs du royaume mérovingien, du royaume de Clovis, à des origines troyennes. C'était une chose qui... Alors je parlais de Clovis, j'ai eu tort. C'était pour les Francs, mais avant, d'autres peuples germaniques, à peu près tous les peuples germaniques qui étaient en contact avec l'Empire romain, au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, sont allés s'inventer des origines troyennes, et ils ont les mêmes inventées pour les Gaulois. Alors, c'est une habitude, c'est un phénomène de culture, ça. C'est parce que il faut se mettre à ce moment-là sous la protection d'Homère, si j'ose dire. C'est se mettre dans la grande tradition de culture du monde antique. Alors, on a inventé l'origine troyenne, mais à partir de la fin du XVIIe siècle, et le premier qui a vraiment battu en brèche cette théorie des origines troyennes de la monarchie franque, c'est Leibniz, c'est-à-dire un Allemand pensionné du roi de France, tant qu'on veut, un Allemand qui écrivait en français le plus souvent, mais c'est quand même un Allemand, et qui a démontré ce qu'est la vérité historique, et on a, Dieu merci, il l'a démontré, ce qui fait que ça a été reçu à partir des années 1696-1700. Non, les Francs sont un peuple germanique, ou un agglomérat de peuples germaniques. Alors, on aurait pu s'en douter, donc, rien qu'au nom de ce pays, au nom de la France. Nous allons voir qu'en réalité, ça n'a jamais été réellement accepté, réellement reçu. Donc, je laisse tomber la légende troyenne et j'en arrive à l'origine de la France sous les espèces de l'origine des Francs. Puisque c'est ce qui a donné le nom avec des avatars historiques, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais tout compte fait, le royaume s'appelle Royaume de France à partir d'un certain moment. Et donc, il faut régler ses comptes avec ces peuples du Nord, ces peuples d'Outre-Rhin, qui en même temps sont les ancêtres et les fondateurs de la France. Mais sans que la France soit réellement germanique, parce que l'enjeu, c'est de résister et de s'opposer à ces gens qui continuent à être de l'autre côté du Rhin pendant tout le Moyen-Âge, etc. Et alors, on va faire remonter l'origine des conflits, même à des époques où c'est pas de ça qu'il s'agit. Pas d'un conflit franco-allemand, mais on va rétrospectivement l'inventer, et parce que c'est une confrontation entre l'Allemagne. Entre l'Allemagne et quoi? Alors là, on va rencontrer le deuxième protagoniste, qui est Rome. Et alors vous voyez comment un malheureux garçon qui fait de l'histoire de Rome, parce qu'il est marseillais et qu'il y a des monuments romains dans la région où ça l'intéresse et qu'il aime bien le latin, va tomber dans le piège d'une histoire à facettes où il y a des rapports franco-allemands, mais les rapports franco-allemands, ils existent encore. Moi, j'ai vu, naturellement, comme tout le monde, les Allemands à Marseille entre 1942 et 1944. Et puis, Rome. Parce que tout cette histoire des origines va se jouer entre la France, entre les Germains et les Français, si tant est que ce soit deux choses différentes, nous allons essayer de voir, et quelque chose qui est antérieur, qui est Rome, parce que c'est la Gaule romaine, parce que c'est l'Empire romain, et puis les invasions germaniques. Et ceci se noue de manière absolument évidente dans le monde de l'érudition et puis dans le monde de la grande histoire, je veux dire l'histoire très populaire, et de l'histoire diplomatique au XVIIIe siècle. C'est clairement à ce moment-là que ça se forme, lorsque vont s'opposer, lorsqu'on prétend que vont s'opposer en France deux visions des origines, deux théories, ce que Montesquieu, la France est un pays de vous avez qu'à voir maintenant, d'hommes de lettres, n'est-ce pas ? Alors Montesquieu ayant dit une chose qui est en grande partie fausse, mais il l'a dit admirablement, c'est Montesquieu, il y a deux systèmes, les auteurs de deux systèmes, le comte de Boulainvilliers, germaniste, appelons-le comme ça, et l'abbé Dubos, romaniste. Alors Montesquieu a consacré une vingtaine de chapitres de son livre, il y attache une importance considérable, il a créé un mythe qui oppose les deux systèmes, et ce sont des formules admirables, l'un une conjuration contre la noblesse, c'est l'abbé Dubos, et l'autre, une conjuration contre le tiers-état, c'est le comte de Boulainvilliers. Alors, il faut étudier ces deux auteurs, mais ce n'est pas arbitraire, parce que, en effet, ils ont été très importants dans la politique. Et on voit dès le début du XVIIIe siècle que des livres qui sont théoriquement des livres d'érudition, des livres d'histoire, je vais parler de l'œuvre de Boulainvilliers une seconde et de l'œuvre de Dubos, sont en réalité des livres qui ont été en partie commandités, soit directement par le pouvoir. Alors l'abbé Dubos, il faut savoir, académicien français, archi-célèbre, mais diplomate, avant toute chose un diplomate, un homme de... formé dans l'académie de Torcy, Colbert de Torcy, ces jeunes ecclésiastiques qui étaient faits pour être délégués dans les conférences internationales à la fin du règne de Louis XIV, au début du règne de Louis XV, et qui écrit un livre absolument neuf dans sa présentation les origines de la monarchie française, qui est un livre qu'on lui a beaucoup reproché parce qu'il se présente comme les nôtres, c'est-à-dire comme un livre d'érudition avec des notes dans les marges des livres, des renvois, un livre très difficile à lire, un peu très ennuyeux, il faut le dire aussi, mais qui est un livre qu'on ne comprend pas si on ne comprend pas que son dessin, d'abord original, parce qu'il se situe en plein dans la période du Bas-Empire, que nous séparons, nous, dans notre division traditionnelle qui remonte à Guizot, entre Antiquité, qui se termine en 476, et Moyen-Âge, l'abbé Dubos est parfaitement à cheval, puisqu'il va, il commence au IIe siècle après Jésus-Christ, et il va jusqu'à Charlemagne. Donc, c'est très moderne, ça, c'est une tendance actuelle de l'historiographie. Il se centre sur cette période et il écrit un livre qui est essentiellement consacré à la politique étrangère. C'est-à-dire, il écrit son histoire des grandes invasions en Gaule, mais pour montrer que les Francs n'ont jamais été autre chose que des auxiliaires du pouvoir romain, qu'ils ont été appelés, qu'ils ont été au service du pouvoir légitime, qui est l'Empire romain, et que ce sont les Allemands, et il y a des chapitres, un chapitre de Dubos qui est dirigé contre les historiens allemands, qui ont prétendu le contraire. Donc, une histoire qui était visiblement inspirée par le pouvoir monarchique, avec toutes sortes de retombées dont je vais parler, sur les aspects politiques intérieurs, je veux dire, de cette vision diplomatique, en quelque sorte. En réalité, c'était pour défendre la politique générale de la monarchie, de Louis XIII, Richelieu, Louis XIV, Mazarin, les traités d'Aix-la-Chapelle, enfin les traités de Westphalie, et la politique contemporaine. Et alors, Dubos réfute, et réciproquement, car les deux auteurs, effectivement, ont polémiqué, le comte de Boulainvilliers, qui n'est pas un personnage inconnu ni fantastique comme on l'a prétendu, qui a été un des hommes les plus respectés, les plus connus, un écrivain, les plus connus de son temps. Son temps, c'était quoi? La fin du règne de Louis XIV, parce que Boulainvilliers fait partie des cercles de Bourgogne, c'est-à-dire de ces gens qui attendent d'arriver au pouvoir dans le sillage du petit-fils de Louis XIV, duc de Bourgogne, qui ne régnera pas. C'est son fils, Louis XV, qui régnera. Et donc, derrière, c'est plus ou moins lié à Fénelon, et c'est toute une série de nobles, il y avait des gens qui n'étaient pas nobles, qui écrivent à cette époque, mais qui sont extrêmement connus, bien que leurs livres ne soient pas toujours imprimés, mais circulés sous forme de manuscrits, ce qui rend l'étude de Boulainvilliers horriblement compliquée, parce qu'on est obligé, toujours à l'heure actuelle, d'aller recourir à certains manuscrits. Tout n'a pas été publié, mais la preuve qu'il était célèbre, c'est que, au fond, son principal ouvrage, où se trouve réuni tout ce qui a été publié par d'autres que lui ou par lui-même sous des formes diverses, la conjuration contre le tiers-état dont parlait Montesquieu, c'est un grand livre en trois volumes, L'état de la France, trois volumes, ce sont plus que des in-quarto, c'est des in-folio, qui sont publiés en 1727 ou 1730 à Londres. Et alors, il faut voir, avec tout ce que l'Angleterre, la France et l'Europe comptent de plus huppé nobiliairement, politiquement et intellectuellement, les souscripteurs de Boulainvilliers. Donc on ne peut pas dire que c'était un auteur inconnu. D'ailleurs, Voltaire a donné dans plusieurs de ses œuvres à Boulainvilliers toute l'importance qu'il avait, car c'est un homme qui a une œuvre incroyable. Il s'occupait, était un des premiers historiens de l'islam, il s'occupait d'astrologie mathématique, qui n'était pas considérée comme une fumisterie à l'époque. Et donc, il a surtout écrit cet État de la France, qui était un commentaire aux réponses des intendants que Louis XIV avait commandé pour son petit-fils, l'enquête des intendants, qui était la première enquête statistique générale sur l'ensemble des provinces françaises. Les résultats inégaux selon le zèle plus ou moins grand des intendants, mais le premier livre complet de statistiques et d'histoire et d'archéologie aussi sur les provinces françaises, une somme absolument gigantesque, pour laquelle il écrit des projets de préface, ou alors il a l'occasion d'exprimer la théorie qu'on lui attribue à tort, parce qu'en réalité elle n'est pas dans ses œuvres, la théorie dite germaniste. Alors, qui serait quoi? Les Francs ont véritablement conquis les provinces romaines de la Gaule, les Francs sont établis en Gaule par droit de conquête, et ces Francs sont tout simplement, avec des relais, les ancêtres de la noblesse. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil que ça chez Boulainvilliers, parce que c'est vrai qu'on trouve exprimée dans ses préfaces cette idée, mais il s'empresse d'ajouter que cette noblesse n'a duré que peu de temps, sous la première race des rois et encore. Alors, race des rois, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire les familles. C'est les Mérovingiens, la première race, les Carolingiens, la deuxième race, et les Capétiens, la troisième. C'est comme ça qu'on parlait. Mais des auteurs modernes ont pris le mot race dans ce contexte, dans le sens gobinien ou dans le sens nazi. Enfin, le sens de Houston Chamberlain, etc. Alors, Boulainvilliers est un auteur raciste, alors qu'il explique très clairement que dans aucun pays mieux que la France ne s'est opéré le mélange des peuples, et qu'il n'y a plus de noblesse germanique depuis le 7e siècle après Jésus-Christ, et que tout le reste est arrivé plus tard. Or, il y a la féodalité, et tout l'aspect politique intérieure dont je vais parler. Donc, ces deux livres que Montesquieu a opposés, Montesquieu ne s'intéresse là-dedans qu'au droit féodal. Ça l'intéresse directement, c'est dans l'esprit des lois, il y a 20 chapitres parfaitement illisibles de nos jours, parce que ça ne correspond plus à rien, il faut faire un gros effort pour comprendre comment ça pouvait intéresser des lecteurs du XVIIIe siècle. À propos de ces questions très techniques de droit féodal, alors il parle de Boulainvilliers et de l'abbé Dubos dans les termes que je vous ai dit. Mais néanmoins, il faut continuer à tenir compte de ça, tout en rectifiant, comme je viens de le faire, j'espère rapidement, la lecture de Boulainvilliers et la lecture de Dubos, en essayant de les rapporter à leur commanditaire, si vous voulez, parce que oui, ça je vais y revenir, parce que tout se passe à front renversé. Mais il faut le faire. Pourquoi faut-il le faire? Parce que à partir de Montesquieu, à partir de ce moment-là, et avec des relais que nous pouvons identifier, comme l'abbé de Mably à la fin du XVIIIe siècle, à l'extrême fin, toute l'historiographie française qui va continuer à rabâcher c'est qui s'occupe des origines de la France ou de l'histoire de France d'une manière générale, va continuer à vivre sur ces stéréotypes. Boulainvilliers, le raciste, la noblesse, les droits de la noblesse, le droit de conquête de la noblesse, le tiers-état réduit en esclavage, en servitude, et l'abbé Dubos qui rejette la noblesse. Alors, ça s'explique que des gens aussi intelligents que Mably, et plus tard alors, Guizot, Augustin Thierry, reprennent cette vieille question. Ça s'explique parce que, aux questions factuelles sur les origines de la noblesse, qui n'ont plus beaucoup d'actualité, oui encore, au XIXe siècle, si ça aura de l'actualité jusqu'en 1848, se viennent s'adjoindre des prises de position à front renversé dans cette affaire, parce que le partisan, dit-on, de la noblesse germanique qui vient par droit de conquête réduire en servitude les malheureux gallo-romains et réduire donc le futur tiers-état en servitude, sont aussi les libéraux, C'est-à-dire que ce sont ceux qui se sentent solidaires, par exemple, des parlements au XVIIIe siècle, qui, en fait, ils préféraient les États généraux, mais depuis Louis XIV, il n'y en a plus. Donc, ils se rabattent sur les parlements, qui protestent contre la centralisation monarchique, qui n'a plus rien, ni de Germanie, ni de rien, c'est la centralisation, les intendants. Alors, ce que combat Boulainvilliers, ce n'est pas le tiers-État, ce n'est pas la monarchie, c'est les préfets, les intendants inventés par la monarchie et qui se substituent à la noblesse, à ce qu'aurait dû continuer à avoir comme privilège politique la noblesse, mais qu'elle n'a plus depuis très longtemps, et Boulainvilliers le sait. Et l'abbé Dubos, lui, étant le défenseur de la monarchie, est aussi le défenseur de... Il n'y a pas d'absolutisme monarchique, c'est un mythe, l'absolutisme aussi, mais disons, de la volonté des rois, qui est claire au XVIIe, au XVIIIe siècle, de gouverner sans trop de difficultés avec les notables locaux, leur royaume. Donc, les gens qui font une conjuration contre la noblesse, l'abbé Dubos, en réalité sont les centralisateurs et les autoritaires au fond de l'origine des Francs. Nous sommes partis de la notion d'invasion ou pas invasion. Nous rencontrons en réalité des questions diplomatiques. Est-ce que le roi de France a quelque chose à faire en Allemagne comme il l'a fait? La dernière fois où il a pu le faire, c'est les traités de Westphalie, où nous rencontrons des questions politiques à l'intérieur de la France, à savoir que sont les ordres, la société d'ordre, qu'est-ce que l'ordre de la noblesse, quelle légitimité ou non a-t-il, et quels sont les privilèges des sujets par rapport à la monarchie. C'est pourquoi tout ce qui se greffe là-dessus chez les deux auteurs, mais principalement sur Boulainvilliers, c'est interminable, il faut de la patience pour le lire, c'est en réalité une histoire des États généraux. À partir de ces questions des origines, on arrive aux États généraux. Et là, nous voyons bien se dessiner des problèmes concernant la nation. Parce que les États généraux, eh bien, c'est en effet trois ordres qui se partagent quoi ? Les faveurs du roi, qui se partagent l'amour du roi, puis qui vont peu à peu prétendre se partager quelque chose qu'on va appeler une patrie, qui vont prétendre ou non à la fraternité. Les États généraux, c'est pas pour rien qu'après, sous la Révolution, ça a recommencé avec la convocation des États généraux. Le problème des États généraux est un problème où se noue l'histoire nationale. On a un exemple absolument frappant, je terminerai peut-être là-dessus, parce que autrement je vais trop long, naturellement. C'est les États généraux de 1614, si je ne me trompe pas, pratiquement les derniers qui ont été réellement convoqués, réellement tenus, parce qu'il y a eu ceux convoqués en 1652 mais qui n'ont pas été tenus, par la monarchie. Alors, aux États généraux de 1614, il y a un grand débat, il y avait Richelieu qui était là, n'est-ce pas, un grand débat sur des problèmes fiscaux, comme toujours, et donc des orateurs du tiers et des orateurs de la noblesse qui s'opposent. Et les orateurs du tiers, l'orateur du tiers avait eu le malheur de faire un beau discours, comme on faisait toujours aux États généraux, au roi, pour expliquer que tous les ordres étaient à son service, qu'ils étaient tous frères et qu'ils allaient donner de l'argent au roi et lui montrer leur dévouement. Et le porte-parole de la noblesse, qui répond après au discours du tiers, le baron de Sensé, fait un discours que nous avons parfaitement conservé, tout ça, pour dire que c'est absolument insupportable d'entendre des manants, le tiers-état, prétendre qu'ils sont des frères, les frères de la noblesse et les fils. Alors pourquoi les frères? Parce que nous sommes fils de la même patrie. C'est un des plus anciens textes, pas forcément, j'en sais rien, j'ai pas fait de recherche, mais c'est très frappant de voir en 1614 cette affirmation de la part du tiers, nous sommes les fils de la même patrie, et un délégué de la noblesse, non pas toute la noblesse, ce serait aller trop vite, un délégué de la noblesse, dire absolument impossible de supporter ça, alors on vient aux injures, mais le délégué du tiers était un noble, qui, ancien militaire, et qui donc dit, mais moi j'ai servi le roi et j'ai droit à l'épée comme vous, je peux me battre avec vous. Alors, cette affaire, elle vaut ce qu'elle vaut en 1614, elle est tout à fait significative. Ce qui est très important historiographiquement, c'est que un des historiens dont nous dépendons le plus, toujours à l'heure actuelle, pour cette histoire des origines françaises, c'est-à-dire Augustin Thierry, écrit en 1653 son histoire de l'origine du tiers-état, qui est un livre, on ne sait pas, c'est remarquable, c'est très bien fait, dans lequel il fait un sort, naturellement, Augustin Thierry, à cette affaire des états généraux de 1614, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'histoire scolaire française, tous les programmes, tous les manuels de la Troisième République vont être faits en démarquant, honteusement d'ailleurs, quelquefois sans le dire, l'histoire du tiers-état d'Augustin Thierry. Et c'est ce que nous avons encore appris, en tout cas dans ma génération. Alors on s'aperçoit que ce qu'on nous apprenait de l'école primaire au Bachot, dans notre histoire de France, excellente d'ailleurs, mais officielle, je veux dire des programmes officiels, des éditeurs plus ou moins subventionnés par l'État, c'était ce que Augustin Thierry avait écrit pour la première fois admirablement au XIXe siècle, milieu du XIXe siècle, qui en réalité provenait déjà de topoi historiques qui étaient des lieux communs presque à l'époque de l'abbé du Bos et de Boulainvilliers. Donc une espèce de continuité où l'on voit comment de ce problème des origines factuelles, des origines réelles, d'où viennent les Francs, qui sont-ils, on est passé par annexion successive de nouveaux sujets d'études, en particulier d'histoire intérieure, mais il ne faut pas oublier l'histoire diplomatique de l'autre côté, on est passé à une vision, comment la caractériser, une vision évangélique, religieuse, ou une vision philosophique de la nature de la nation, pas seulement ses origines, mais sa composition, les rapports entre, et son histoire tout à fait actuelle. Je suis obligé d'aller très vite parce que je vous ennuie, et donc il faut voir ce que je veux dire rapidement, c'est que toute cette histoire, ça va durer jusqu'à, sous les formes que je viens de dire, pratiquement la veille de la Révolution. C'est résumé par le mot fameux de l'abbé Sieyès sur le « qu'est-ce que le tiers-état ?» où il y a la phrase « quant aux nobles qui prétendent à tort et qui osent prétendre qu'ils sont les maîtres de la majorité de la population du tiers-état, eh bien, renvoyons-les dans les forêts de Franconie. » cette phrase, c'est typique. À la fin, ça se traduit par une contre-invasion. Il y a eu, admettons qu'il y ait eu la conquête, l'invasion germanique, M. Hyest n'y croit pas, mais si vous prétendez qu'il y a eu invasion, eh bien on va vous renvoyer dans vos forêts de Franconie. Et c'est la Révolution. Alors avec la Révolution, il semble que tout ça, en effet, soit mis aux accessoires, au magasin des accessoires. Eh bien, la surprise, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'en réalité, les termes de ce vieux débat, sous ses doubles aspects diplomatiques, sous les rapports avec le reste de l'Europe, et l'Allemagne surtout, le plus proche voisin, et puis intérieur, qu'est-ce que c'est que la politique dans ce pays ? Qui est souverain ? Le roi, la noblesse, le clergé ou le peuple ? Toutes ces choses sont effacées apparemment pendant la Révolution par un triomphe apparent, là aussi, qui a trompé, le triomphe du retour à l'Antiquité. Mais qu'est-ce que c'est que le retour à l'Antiquité pendant la Révolution française ? Quelques mois, 12 mois, 18 mois peut-être, pendant lesquels une gesticulation des discours, une minorité de gens dont la suite a montré qu'il n'était, sauf certains, l'insincérité absolue de ces discours, affectent, prennent les poses théâtrales de se draper dans la toge, les toges du pouvoir, un livre d'un juriste qui est utile par des dénombrements, là-dessus. Ça dure très peu de temps, ça dure jusque un peu sous le Directoire, et tout le monde dit, mais non, ça continue, parce qu'après nous avons eu César, nous avons eu l'Empire. Oui et non, parce qu'en réalité, quand on regarde de près, mais c'est pas moi qui ai fait l'enquête, j'ai simplement contribué pour une petite chose, elle a été faite par des historiens récents du Premier Empire, etc., la revendication historique du nouveau chef d'État, du dictateur qui s'installe, Bonaparte, le général, celui qu'avait prévu Catherine II, César viendra. Sa revendication n'est pas le Jules César que nous croyons, mais c'est Charlemagne. Et ça, c'est d'une clarté absolue. Il l'a dit dans des textes officiels, il l'a redit après, dans les textes pour la postérité dictés à Sainte-Hélène, le modèle qu'il faut imposer, il n'est pas arrivé, mais ça a duré 10 ans, mais là, on a essayé, c'est Charlemagne. Alors, on peut essayer de savoir pourquoi, quel Charlemagne, parce que Bonaparte, qui était lettré, avait lu Mably, et que Mably avait inventé, pour se demander comment, c'est très intéressant, Mably, qui était l'écrivain, l'historien le plus célèbre la veille de la Révolution. En réalité, pas un très bon historien, pas un historien du tout, rien à voir avec l'abbé Dubos, par exemple, ou même avec Boulainvilliers, mais un philosophe, un diplomate, lui aussi, quelqu'un qui aurait voulu faire une carrière diplomatique, et alors qui a inventé un Charlemagne imaginaire qui est l'empereur philosophe qui d'ailleurs aurait inventé les états généraux tels qu'ils auraient dû être, c'est dans Mably formellement, et en tout cas Charlemagne. Alors Bonaparte avait lu ça, et au moment de l'établissement de l'Empire, on le voit par les textes qui sont envoyés pour faire voter les soldats qui votaient à l'époque, l'armée. Alors là, on dirigeait leur vote sans aucun scrupule, et nous avons les textes qui sont envoyés dans les corps de troupes, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête, là, il y a Morisset qui a fait ça, et puis bien d'autres. On voit que... c'est Charlemagne. Alors, avec des phrases tout à fait remarquables, on dit Bonaparte, mater César, laissons le titre de César à de ridicules principicules allemands. Ça, c'est l'empereur d'Autriche, hein, c'est les empereurs d'Allemagne qui ont le titre de César. C'est ridicule. Non, non. Charlemagne, n'est-ce pas, le véritable. Et après, il a dit, une lettre à un de ses frères, « J'ai redonné aux Français l'empire qu'ils avaient perdu depuis 1000 ans. » 1000 ans, ça renvoie à 800, c'est-à-dire le couronnement de Charlemagne. Bon, alors, la parenthèse de retour à l'antique, elle est extrêmement brève et peu significative. En revanche, ce qui est remarquable, alors c'est remarquable, j'en resterai là, il y aurait bien des choses à dire encore. Au début du XIXe siècle, à partir de 1814, c'est le retour des barbares. C'est le retour de la question de la fabrique des nations, le retour des barbares. Parce que, d'abord parce qu'il y avait eu l'invasion. Et ça, on voit chez les contemporains, que ce soit Guizot, que ce soit Augustin Thierry, que ce soit Quinet, et puis Michelet, il faut le voir aussi, ce qu'a été pour les Français de 1814, puis après 1815, ce bouleversement, ils n'y croyaient plus, il y avait 20 ans. Depuis 20 ans, les Français étaient à Moscou, à Madrid, etc. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et nous voyons quoi? Nous voyons des gens avec des grandes moustaches blondes, des tresses rousses, c'était les cavaliers de l'armée impériale, des Croates ou des Hongrois, ou des, qui parlent latin. D'ailleurs, c'est une page incroyable de Quinet, qui a été obligé dans la maison de son père de loger comme ça des impériaux. Ce sont des gens qui parlent latin, qui jouent du violon, mais qui donnent le fouet à leurs soldats, chose qui était impensable dans l'armée française depuis la Révolution. Le fouet ou le coup de plein de sabre, c'était fini, n'est-ce pas, dans les armées impériales et révolutionnaires. Et c'est la fabrique des peuples qui nous tombe dessus. Alors, pour les gens de cette génération, ces invasions germaniques, ça évoque, ça leur rappelle ce qu'ils lisaient dans leurs textes classiques, lisaient des textes du Bas-Empire sur les invasions germaniques. Ils faisaient déjà le chemin qu'a fait Pierre Courcel après, avec l'histoire littéraire des grandes invasions. Ça leur rappelle ça, et donc, qu'est-ce que nous devons en penser ? Alors, entre-temps, naturellement, s'était produite la découverte de la liberté des modernes. J'emploie l'expression de Benjamin Constant, Madame de Staël et les autres. Nous, nous sommes libres. Et avant nous, il n'y avait pas de liberté, c'était la monarchie centralisée, despotique, administrative. Et puis, c'était l'Église de Rome, qui n'a rien de libre. Et nous, nous sommes libres, pourquoi? Parce que nous sommes protestants et parce que nous sommes germaniques. Nous sommes des fils de la libre Allemagne. Et ce n'est pas un hasard, la réforme, la liberté, le libre examen, c'est en Allemagne que ça s'est produit. Alors, ça c'est un mouvement d'opinion, c'est au moment de l'établissement de la monarchie parlementaire en France, avec la charte de 1814-1815, c'est là-dessus que se joue la politique en France, avec Madame de Staël et bien d'autres, Chateaubriand et puis donc Benjamin Constant. Pour les gens qui recherchent l'histoire de France et qui veulent remonter encore plus haut et connaître les origines de la nation, alors ils arrivent à cette idée, oui bien sûr, nous avons été envahis par des peuples germaniques qui sont une avalanche de barbares, mais ils nous ont apporté la liberté. Ils nous ont apporté l'horreur, ils ont pillé, ils ont violé, ils ont mis en servage les Gaulois de l'époque, les Gallo-Romains de l'époque, mais c'est à eux que nous devons la liberté. Et les deux plus grands historiens français, je dirais le plus grand, ceux qui ont déterminé tous les autres, dont tous les autres se réclament, c'est-à-dire François Guizot, on les prend dans l'ordre chronologique, à partir des années 1820, des cours en Sorbonne de 1820, et puis après il devient ministre, et il fait lui-même les programmes d'histoire, et il invente notre périodisation de l'histoire de France. Il l'a fait entrer dans les programmes et nous n'en sommes pas sortis. Et puis, le plus talentueux, Augustin Thierry, dont on n'imagine pas le succès, et le succès mérité, parce que ce n'était pas seulement un écrivain et un journaliste de génie, c'est un historien aussi, sont obligés d'intégrer dans leur histoire nouvelle cet apport de la liberté germanique. Guizot le fait pour protestant sans aucune arrière-pensée, il le dit clairement, et Augustin Thierry, qui se proclame l'élève de Guizot, le reçoit beaucoup moins et dit, dans ce qui ressort de l'ensemble de ses œuvres, car il a fait, lui, l'historiographie de l'histoire de France, la manière la plus formidable, la plus intelligente qu'on puisse imaginer, et en disant, ils n'ont pas apporté la liberté, ils avaient une liberté, ces Germains, mais c'était une liberté de la jungle, c'était la liberté des bandits de grand chemin qui égorgent, qui volent sur le chemin. Nous aurons la vraie liberté, nous, parce que nous sommes le tiers état et nous allons recevoir dans la nation française, et le mot alors est omniprésent chez Augustin Thierry, aussi bien les descendants de ces envahisseurs germaniques qui avaient non pas la liberté mais le goût de l'indépendance, donc le goût des armes, le goût de la guerre, etc. Et nous, descendants du tiers état, nous allons les intégrer. Les intégrer dans quoi? Dans la monarchie parlementaire et la monarchie de juillet. La monarchie de juillet, le mot est dans Augustin Thierry comme fin de l'histoire. Après, il n'y aura plus rien à faire. L'histoire sera terminée, elle sera harmonieuse, parce que nous aurons fait ça. Ils y ont cru pendant 18 ans, de 1830 à 1848. Et puis, il y a eu 1848. Alors, je m'arrête, parce que... les choses ne sont jamais réglées pour toujours, parce que en France, nous allons avoir une renaissance du romanisme sous la forme du césarisme. Sous la forme du césarisme. Pourquoi? Parce que Napoléon, je vous dis, le premier, je vous ai dit ce qu'il fallait en penser. Le second, Napoléon III, nous avons eu deux Césars. Napoléon III, qui a dit, moi je ne suis que l'héritier, j'applique les idées de mon oncle. Et seulement, il a écrit une histoire de Jules César. Il y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'initiatives, et ça a eu des retombées fantastiques en France. D'abord, il a dépensé 8 millions de francs or pour des fouilles archéologiques ou pour des levées de cartes qui ont eu une influence considérable. Et donc, on voit reparaître, sous la forme d'un néo-césarisme, si vous voulez, l'histoire romaine. Elle n'est jamais loin, vous voyez, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Augustin Thierry était passé à une période postérieure, il réglait ses comptes avec les grandes invasions et les Germains, les Francs, etc. Avec Napoléon III, on revient à Rome, et à partir de ce moment-là, il se trouve aussi, les Allemands aussi, pour des raisons différentes, non pas qu'il n'ait pas trouvé dans l'histoire contemporaine de quoi les inspirer. Le plus grand historien allemand de Rome avant Mommsen, c'est Niebuhr. Et déjà Niebuhr règle ses comptes avec la Révolution française en écrivant son histoire de Rome, qui n'est que l'histoire des origines, l'histoire très archaïque de Rome. Mais le plus grand historien de Rome du XIXe siècle est un Allemand, c'est Mommsen, incontestablement. Je veux dire, c'est une matière factuelle, ce que je dis, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est l'homme dont ont dépendu la suite des études d'histoire romaine. Or, s'il y a un homme qui a toujours penser son histoire romaine, mais sous tous ses aspects les plus érudits, quand il faisait les entreprises les plus érudites, quand il créait et dirigeait le corpus des inscriptions latines et bien d'autres choses, Mommsen pensait son histoire romaine en rapport avec l'histoire allemande, sûrement, mais surtout avec l'histoire française. C'est tout à fait évident quand on lit l'histoire de Rome de Mommsen, qui est écrite à partir de 1854, donc à une époque où la France de Napoléon III règne, non seulement sur l'Europe diplomatiquement à cette époque, mais sur l'histoire romaine, parce que Napoléon III va, un peu plus tard, commencer son histoire de Jules César et développer des explorations, des voyages archéologiques, une cartographie, des fouilles concernant l'histoire romaine. Mommsen suit ça de très près, il y est mêlé d'ailleurs, assez directement, et cette histoire romaine s'écrit en Allemagne, non moins en rapport avec la France que l'histoire de France en rapport avec l'Allemagne en France. Alors, il est assez facile d'étudier la suite, parce que la suite, ça découle de ces choses-là. Il faut parler de Fustel de Coulanges, qui a été le plus grand historien français de la période de la fin du Second Empire jusqu'à sa mort, assez jeune, en 1889, et qui n'est pas seulement un historien de l'Antiquité, nous le croyons, la cité antique, livre de jeunesse. Il était membre de l'école d'Athènes, hein, athénien, il a commencé comme helléniste, mais après sa vraie vocation, pas seulement à partir de 1870, mais avant, on peut le prouver, à la fin du Second Empire, c'était d'écrire les origines de la France contemporaine. Ce qu'ils feront tous après, de Taine à Renan, n'est-ce pas, ils font ça après la défaite. Mais Fustel a commencé avant. Et il publie 10, 12 énormes volumes. Il n'a pas le temps de terminer parce que chaque fois, il est obligé d'aller plus loin et donc il n'arrivait plus à déboucher. Il voulait aller jusqu'à Louis XIV, il est obligé de s'arrêter à Charlemagne et encore même pas. Donc, Fustel de Coulanges, mais avec une influence considérable parce que Fustel de Coulanges a inventé les programmes de l'agrégation d'histoire, les postes de maître de conférence, l'enseignement sous forme de séminaire. C'est lui qui a introduit les mots en histoire à l'école normale et à la Sorbonne, donc maître incontestable, même s'il était terriblement combattu par les rivaux, les chartistes, etc. Et puis, le grand héritier, au sens propre du mot, exécuteur testamentaire de Fustel de Coulanges, Camille Julien, qui lui... Alors, Fustel de Coulanges, il faut savoir que ces 10 volumes consistent à dire « Il n'y a pas eu d'invasion germanique, à aucun point de vue. Il y a eu des batailles, il y a eu des infiltrations de peuples, très peu de choses. » C'est Rome qui continue. Nous sommes romains, nous sommes toujours romains, nous n'avons jamais cessé d'être romains. Et alors, Camille Julien, esprit curieux, et qu'on peut saluer à Marseille naturellement, qui n'était jamais content de rien jusqu'à ce qu'il entre au Collège de France, et encore il n'était pas content, mais continue l'œuvre de son maître Fustel, et lui remonte beaucoup plus haut en disant « mais il n'y a jamais eu de romains ». À l'origine et avant toute chose, il y a, non pas l'Esprit de Dieu sur les... Non, mais les Gaulois. Il y a les Gaulois qui d'ailleurs, sous le nom de Gaulois, il intègre toutes les populations préhistoriques. Il connaissait déjà, là, il avait une bonne chronologie, il était au courant des premiers bons travaux de, appelons ça, proto-histoire ou préhistoire. Les populations... Donc antérieure aux Romains, Rome n'a pratiquement rien donné à la Gaule. Il y a les Gaulois et naturellement il y a toujours les Allemands. Parce qu'on en revient toujours là, là il y a toujours les Allemands. Alors les Allemands qui étaient menaçants au temps d'Ariovis, c'était même un peu avant, qui était menaçant au 5e siècle après Jésus-Christ, qui était menaçant au Moyen-Âge. Alors, c'est tous les mots qu'on nous a cités dans notre histoire. Je ne sais plus quel est le roi de France qui, répondant à un... Mais je l'ai su, j'ai dit là-dedans, mais j'ai oublié. Qui, répondant à une lettre d'un comte de Flandre ou d'un empereur d'Allemagne, répond « trop allemand ». Ce qui veut dire en réalité une manière allemande de parler, trop allemand. Mais alors tout ça, c'est des trucs qui sont repris dans Maurras, dans... et ça vient en réalité de Fustel de Coulanges, d'Augustin Thierry, de Fustel de Coulanges ou de Camille Julien. Et alors, Camille Julien, donc, qui voit le danger. C'est vraiment le dialogue franco-allemand. Et je terminerai simplement là-dessus pour dire que les choses sont toujours, l'histoire est rugueuse, ne sont jamais aussi simples qu'on le croit. Parce que, oui, Camille Julien, bien sûr, ce patriotisme gaulois, cette idée d'une nation gauloise, nous considérons que c'est de la mythologie. Mais il faut savoir que Camille Julien, même dans ses écrits publiés pendant la guerre de 14, alors l'atmosphère n'était pas aux nuances théoriquement, eh bien, j'ai cité des textes longuement. Camille Julien passe son temps à dire « Je ne crois pas aux races. Il n'y a pas de race allemande, il n'y a pas de race française, il n'y a pas de race juive, il n'y a pas de race, ça n'existe pas. Je connais les nations. » Alors, le nouveau sens du mot « nation », c'est les gens qui se veulent, enfin, ça datait de Renan déjà aussi, les gens qui veulent vivre ensemble, les gens qui choisissent, qui se choisissent quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas génétique. Et ça, c'est dit en pleine guerre de 14, dans des écrits, des cours du Collège de France, de Camille Julien, qui a donc résisté. Là, il y a là un petit côté de l'idéologie française, la vraie, celle des Lumières, qui a résisté à tous ces fantômes racistes, tous ces fantômes historiographiques, qui sont répugnants quand on y réfléchit. J'ai essayé de vous les rendre. Quand on lit ça, c'est extrêmement, c'est horrible à lire. Voir des grands esprits ont donné dans toutes sortes. Mais il faut dire un peu moins en France que chez Houston Chamberlain, que chez, j'allais dire Mobsen, non, Mobsen est un vrai libéral, il n'est pas raciste, et que chez les contemporains, les Allemands contemporains de Camille Julien, de la guerre de 14, etc. Donc quelque chose qui vient de quoi? Alors, laissons tomber les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Latins, les Allemands, les Germaniques, tout ça, ce sont des sépulcres blanchis. Laissons toutes ces choses au musée et disons que tout de même, il y a la philosophie des Lumières, l'idéologie française, en grande partie quand même, principalement. Je n'oublie pas Beccaria, je n'oublie pas Locke, je n'oublie pas toutes sortes de gens qui sont nos vrais pères, qui opposent à ces visions, à ces délires historiques, vous voyez comme l'histoire est délirante, qui opposent une idéologie, des doctrines, de type philosophique, de type... rationnel, de type ou sentimental aussi, naturellement, mais qui laisse les morts enterrer leurs morts. Voilà.
Pour vous remercier, mais enfin, je le fais à sa place et au nom de tout le monde, je crois, de cette très belle leçon d'histoire, de comment et pourquoi on écrit l'histoire, peut-être, en fait.
Pourquoi il faut douter de l'histoire.
Pourquoi il faut douter de l'histoire aussi. Et je passe tout de suite la parole à ceux qui veulent l'apprendre.
Est-ce que l'analyse des langues a joué un rôle dans cette
construction? La quoi, là?
Des langues. À partir de quand on a une conscience précise que les langues romanes sont apparentées, que l'allemand n'est pas une langue romane, etc.
Écoutez, vous me prenez à l'improviste, je ne suis pas du tout linguiste. Je sais que Leibniz s'est occupé de ça, il y a des traités de Leibniz là-dessus. Je pense que c'est au XVIIe, au XVIIIe siècle qu'on commence à identifier. Et puis nous savons bien qu'après, il y a le concept de langue indo-européenne, mais c'est à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, et puis si je ne me trompe, ça naît chez les Anglais de Calcutta, ça, et des trucs comme ça. Mais je ne suis pas linguiste, excusez-moi. Je suis parfaitement incompétent sur ces questions. C'est un livre très limité. J'ai lu quoi? J'ai lu les maîtres d'école ou les historiens, les gens qui ont influencé l'histoire scolaire, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est de voir comment ça a commencé. Moi, je me rappelle mes souvenirs de 5 ans, début de l'école primaire, les premières choses, au Guilan-Neuf, les Gaulois, les trucs comme ça. D'où ça vient? Quand ça a été... Enfin, il y a des choses qui remontent au XVIIIe siècle, même un peu plus haut, et puis, massivement, Augustin Thierry. Et c'est à partir d'Augustin Thierry que ces choses... C'est pas étonnant, c'est sous la monarchie de Juillet, lorsque Guizot est ministre, lorsque, pour la première fois, on fait des programmes pour l'agrégation, pour la première fois, le ministre s'occupe de ça. C'est à ce moment-là que ça prend figure et que ça ne bouge pas beaucoup, il faut bien dire. Ça continue longtemps. Mais je ne dis pas qu'il faut le rejeter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait belles et tout à fait frappantes là-dedans. Je ne dis pas vrai. Je ne dis pas vrai parce que, sincèrement, est-ce qu'on peut vraiment traiter un sujet comme les origines de la nation française? Moi, je ne le crois pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire nation française? Qu'est-ce que ça veut dire français? On est tout de suite dans l'imaginaire ou dans le, comment dirais-je, dans l'artefact. Alors, ça n'est, on ne peut le traiter que sous forme historiographique. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on nous l'enseigne comme ça? Il me semble.
Consiste à évacuer le réel pour s'occuper des représentations. Moi, je dirais que...
Attendez, mon cher.
Que la nation française est une réalité, les origines n'en ont pas. Que l'idée d'origine est vraiment une idée qui était probablement une nécessité de l'esprit humain, mais qui est encore beaucoup plus absurde que l'espace et le temps.
Je suis assez d'accord avec vous. C'est ce que j'essaie d'exprimer sous une autre forme. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de nation française. Mais, bon, si elle existe, c'est une chose récente, c'est beaucoup plus récent que l'époque des grandes invasions, ou que, voilà. Et puis, ça consiste en quoi? C'est quand même, vous dites, qu'il y a une réalité. Mais c'est toujours une réalité qui est exprimée par des mots, et des mots qui ont une valeur... opératoire, politique ou idéologique, etc. Jusqu'à un certain moment. Alors, il y a des moments où on voit que le mot nation, Dieu sait, il est opératoire, les gens y croient d'une manière incroyable. Les Français de la guerre de 14 y croyaient sûrement, mais sans doute bien avant, parce que déjà en 1870, ça se manifeste, n'est-ce pas? Mais, comme vous dites, origine, c'est imaginaire.
En somme, pour reprendre le titre même de votre livre, et pour marquer un autre terme célèbre, ce que vous nous proposez, c'est une défabrication.
Ah oui, mais je ne suis pas Derrida, hein. Je ne déconstruis pas, je ne défabrique pas. Non. Vous savez, sur la nation française, Moi, je m'en tiens au livre de Colette Beaune, il est admirable, je trouve qu'il dit, il est excellent. On voit très bien que ça se noue au XIVe, au XVe siècle, voilà. Mais remonter au-delà, j'en suis bien incapable, c'est pas mon métier d'abord. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir que des érudits ou des historiens professionnels ont essayé de le faire et la façon dont ils l'ont fait. Mais c'est une histoire d'imaginaire, c'est de l'historiographie, mon cher Tchernia, je suis bien d'accord avec vous, c'est du réflexion sur la réflexion, hein. C'est rien de plus. Rien de plus. Mais ça, je peux faire parce que j'ai lu des livres. Et voilà, mais le reste.
C'est bon, la fin ?
Oui, effectivement, il y a quand même des usages récurrents de l'Antiquité. Au moment des grandes fouilles, d'après la guerre de 70 entre Delphes pour la France et Olympique pour l'Allemagne, quand Bismarck se charge d'expliquer à Guillaume II pour continuer à fouiller à Olympique parce que les Allemands sont les vrais Grecs, est-ce qu'il pense encore au fait que les Français sont les Troyens ?
Je ne pense pas parce que c'est un Allemand qui avait démontré que c'était inepte. Et donc c'est là que je ne pense pas. Non. En effet, Bismarck, l'affaire, j'en ai un peu parlé dans un chapitre, je ne sais pas si vous avez vu, la guerre de l'érudition, quand le fondateur de l'école française de Rome, le premier directeur, Dumont, était un helléniste, un grand épigraphiste grec, et il n'a passé qu'un an à Rome pour lancer l'école, et puis il est parti. Et à l'époque du retour de Rome, il a été reçu par le prince héritier quand il a quitté Rome, Humbert, et Humbert lui a dit n'ayez aucune illusion. Alors c'était en 1876 ça, et il y avait eu déjà un incident à Rome au moment de la fondation de l'école française qui s'était retirée de l'institut de correspondance archéologique parce que Bismarck l'avait nationalisé, les Allemands l'avaient rendu allemand, n'est-ce pas, et on s'en était retiré. Alors Bismarck avait fait une sortie, il avait un peu bu. Je dis, pas Bismarck, Mommsen avait fait une sortie, et j'ai la plus vive admiration pour Mommsen qui était pro-sémite, qui n'était pas du tout et qui détestait l'impérialisme allemand. Mais il avait un peu bu, il dit, les Français ne nous pardonneront jamais, on ne sera jamais amis avec la France. Dans une réunion, il y avait tous les instituts, il y avait tout le corps diplomatique, etc. Et, non mais c'est un peu après, je me trompe, ça c'était Geoffroy qui était directeur. Alors, Dumont quitte, mais dans ce contexte, l'école de Rome et va rendre visite au prince héritier, qui lui dit, n'ayez aucune illusion, vous allez trouver en Grèce la même situation que en Italie. Ce qui était nouveau, parce qu'il n'y avait pas tellement d'Allemands, ils n'avaient pas vraiment commencé. À ce moment-là, le problème des Français en Grèce depuis 1845, c'était les Anglais, beaucoup plus que les Allemands. Et le prince héritier avait raison, il avait de bonnes informations. Alors, derrière tout ça, bon, il y avait une rivalité scientifique qui était de l'ordre du prestige diplomatique, il fallait avoir des choses. Parce que il faut quand même, à leur honneur, dire que tous ces hommes de cette époque, je mets à part des gens comme Gobineau, pauvre type, et Winston Chamberlain, qui était en Allemagne, etc. Mais les savants, même ceux qui étaient les plus, pas encore pan-germanistes, ça n'existait pas, mais enfin les plus prussiens patriotes, ou bismarckiens, si vous voulez, ou en France, les plus patriotes, avaient encore le respect d'eux-mêmes. On ne trouve pas dans les textes de cette époque des grands protagonistes de cette rivalité diplomatique et scientifique vis-à-vis de l'archéologie méditerranéenne, de l'histoire romaine, etc. On ne trouve pas de paroles ridicule. On ne trouve pas de choses. Je ne sais pas si vous en avez trouvé, si vous les avez lues, non. Il y avait un niveau... Pardon ?
Bismarck n'était pas l'archéologue.
Non, mais Bismarck, c'est autre chose. Je parle des savants. Et ils essayaient de maintenir les choses. On voit très bien à Rome, très vite, les rapports entre l'Institut, le Germanico, qui était mis en place à cette époque, et la nouvelle école française de Rome, avec son premier vrai directeur, Geoffroy, sont devenus des rapports excellents, ce qu'ils avaient été pendant des décennies, et on a calmé le jeu. On a calmé le jeu. Mais il y avait des rivalités, mais c'était plus des rivalités d'émulation scientifique que de... Oui, en même temps, vous savez, on va... Vous êtes allé comme moi, mieux que moi, à Balbec. Alors à Balbec, vous avez une auberge qui s'appelle, je ne sais plus comment, enfin tout le monde va déjeuner là, Guillaume II ou quelque chose comme ça, enfin. Et on est accueilli par le portrait en pied de Guillaume II, qui était venu en voyage, qui a fait son détour à Balbec à ce moment-là. Alors, Guillaume II a écrit à Houston Chamberlain, qui était son ami, pendant sa tournée à Balbec, il lui a écrit et il a dit « Je suis en train d'assurer la revanche des Germains sur les Latins. » Donc, la présence et les fouilles aussi, puisque c'est le début des fouilles de Balbec, l'empereur d'Allemagne, qui était très emmerdé d'être là, comme vous le savez, parce qu'on l'avait obligé à aller pour des... c'est Bülow peut-être. Enfin, il était très mal à son aise et il voulait surtout pas faire la guerre. Mais n'empêche, il écrit « J'assure la revanche des nous, les Allemands, les Germains, sur les Latins. » Donc, toutes ces choses sont mêlées, c'est bien ça qui est mauvais, naturellement. À mon avis. Et cela dit, la question franco-allemande, elle existe toujours, vous savez, on ne peut pas l'annuler, l'enterrer.
Bon. D'autres questions ? Non, je pense que on a de quoi méditer pour un bon bout de temps.
Excusez-moi d'avoir été trop long, d'avoir pas pu dire tout ce que je voulais dire. C'est moi qui vous remercie de votre oreille attentive.